Bonjour à tous et principalement à ceux à qui je n'ai pas souhaité le bonjour en arrivant. Que le Seigneur nous garde dans sa grâce et dans sa paix. Je vous apporte aussi les salutations de mon épouse qui, à Marcon, pense toujours à vous, non seulement quand je viens, mais aussi en semaine. Je tiens à remercier la présidence qui m'a beaucoup encouragé par les textes lus, par les chants choisis, parce que je trouve une concordance dans le message que le Seigneur m'a donné pour vous, qui parle de l'eau, qui parle de la grâce. Que le Seigneur ainsi continue à nous encourager, qu'il grave sa parole dans nos cœurs et que son esprit nous fortifie pour que ses paroles porte du fruit dans ce monde qui en a tant besoin. Donc je vous invite à lire avec moi dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 47. Ézéchiel 47. Ézéchiel parle d'un ange qui, sous la forme d'un homme, lui servit de guide. Alors, Ézéchiel 47, c'est la source du temple, l'eau qui sort du temple. Ézéchiel écrit, « Il me fit venir vers l'entrée du temple. Or, de l'eau sortait de dessous le seuil de la maison, vers l'orient, car la façade de la maison était à l'orient. » Et l'eau descendait au bas du côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par la porte nord. Puis, il me fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure qui est tournée à l'orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'orient, le cordeau à la main, il mesura 1000 coudées. Un peu plus de 500 mètres. Il me fit traverser l'eau. Elle me venait aux chevilles. Puis il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Elle me venait aux genoux. Puis il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Elle me venait aux reins. Puis il mesura 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait monté, de l'eau pour un nageur, un torrent où l'on n'avait pas pied. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il m'emmena, puis me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux, des arbres des deux côtés. Il me dit, « Cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans la plaine aride. Elle pénétrera dans la mer. Quand elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer seront assainies. Alors, tous les êtres vivants qui fourmillent vivront partout où pénétrera le torrent. Ainsi, le poisson sera très abondant, car cette eau arrivera là où les eaux de la mer seront assainies. Il y aura de la vie partout où pénétrera le torrent. Alors, des pêcheurs se tiendront sur la rive depuis En-Gedi, jusqu'à En-Eglaïm, ce sera un séchoir à filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la grande mer. Mais ces lagunes et ces marais ne seront pas assainies. On les laissera pour avoir du sel. Au bord du torrent, sur les deux rives, pousseront toute espèce d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Que le Seigneur bénisse pour nous sa parole qui est la vérité. Frères et sœurs, il me paraît tout d'abord important de rappeler le contexte de ce passage que nous venons de lire. Ce passage est en rapport avec la restauration d'Israël. Car en ce temps-là, le peuple de Dieu endurait un effondrement sans précédent, effondrement à la fois national et religieux. En captivité à Babylone, il était encore sous le choc d'un grand séisme, à savoir l'écrasement de Jérusalem et la destruction du temple par les armées babyloniennes vers 587-586 avant Jésus-Christ. Mais Dieu, par le prophète Ézéchiel, annonce le changement de leur situation. En esprit, il le fait contempler les phases d'un grand renouvellement du pays avec le retour de son peuple. Ainsi, la célèbre vision des ossements desséchés que l'on trouve au chapitre 37, ossements qui reprennent vie sous l'action de la parole prophétique, d'une part, et par la puissante intervention de l'Esprit, d'autre part. Le prophète eut également, en dehors de cette vision des ossements desséchés, la vision d'un temple nouveau. Ce qui est frappant, c'est que le prophète nous donne une très longue description de ce nouveau temple et communique de nombreuses règles qui régissent son fonctionnement. En agissant ainsi, il nous fait découvrir ce qui favorisera la renaissance spirituelle de ce peuple après son retour sur sa terre. L'ensemble des chapitres 40 à 48, où nous trouvons le temple et les règles de fonctionnement, l'ensemble des chapitres nous montre en effet que le nouveau temple aux maisons de Dieu était appelé à jouer un rôle essentiel dans le relèvement du peuple qui était profondément meurtri dans sa chair et dans son esprit. Ce relèvement vient surtout du fait que désormais, la gloire de Dieu revient dans ce lieu saint. J'ouvre une petite parenthèse que je referme, c'est que lors de la déportation et du peuple, après la destruction, quelque temps avant, la gloire de Dieu avait quitté Jérusalem. Et là, maintenant, comme signe de faveur, la gloire de Dieu revient. La gloire, la terre elle-même, va resplendir de cette gloire, nous dit le chapitre 43, 2, 6. Et la ville sainte sera vraiment réconfortée. C'est ce que proclame la fin du livre en ces termes. Dès ce jour-là, le nom de la ville sera « Le Seigneur est là ». Donc, je résume, il y a eu la vision des ossements desséchés qui ont repris vie par la parole et par l'esprit. Il y a le nouveau temple avec ses règles et la ville qui reçoit la gloire de Dieu avec ce titre « Le Seigneur est là ». À présent, cette vision de l'eau qui jaillit du temple, par cette vision, Ézéchiel nous offre un récit impressionnant. Il nous fait contempler d'abord le rayonnement de la gloire de Dieu à partir du temple, une gloire qui, sous l'aspect d'un torrent majestueux et généreux, déborde à l'extérieur, répandant ses faveurs sur le pays et sur tout ce qui le remplit, végétation ou être vivant. Et je vais vous inviter donc à suivre le parcours de ce torrent qui sort du temple, parcours extraordinaire, parce que nous allons observer une évolution curieuse, une progression et une croissance, d'une part. Ensuite, nous allons observer qu'il y a une orientation particulière de ce torrent lorsqu'il s'écoule. Et en dernier lieu, nous allons considérer que l'eau du torrent avait des vertus miraculeuses. D'abord, la progression et la croissance du torrent. Sous la conduite du guide, probablement un ange, Ézéchiel participe à une bien curieuse expérience. Le Seigneur lui a accordé la vision d'événements surnaturels. Le prophète les observe, mais il participe également à leur déroulement. Ce que va constater Ézéchiel en premier lieu, c'est l'origine de cette eau. Il remarque que l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est. Donc ce n'est pas une source sous terre, mais une source dans le temple, dans la maison de Dieu. Autant dire qu'Ézéchiel signale cette existence de la source en rapport avec un lieu précis, un lieu saint. Une telle indication n'est pas banale, car on la retrouve dans d'autres passages bibliques. Par exemple, le psaume 36 déclare « Tu abreuves au torrent de tes délices ceux qui trouvent refuge chez toi, car chez toi est la fontaine de la vie. » Donc, lorsque le Seigneur nous accueille dans son temple, nous dit le psaume 36, non seulement il nous gave de mets précieux, ce sont les versets précédents qui le disent, mais surtout il nous abreuve au torrent de ses délices, car chez lui est la fontaine de la vie. Pour le croyant de l'ancienne alliance, cette affirmation n'était pas sans importance, car on sait souvent, on nous parle de la soif que tel croyant avait de Dieu. J'ai soif de Dieu vivant. Et pouvoir se rendre au temple et se présenter devant Dieu, c'était donc l'opportunité d'apaiser, de se désaltérer. Et David exprime sa confiance à Dieu en disant « La joie abonde près de ta face, les délices éternels à ta droite. » Et c'est pourquoi David et d'autres croyants de l'ancienne alliance désiraient se rendre souvent à la maison du Seigneur, et même parfois ils désiraient y séjourner éternellement. Or, nous trouvons quelque chose de différent et même de contraire dans la vision d'Ézéchiel. Bien sûr, il parle de la source qui est dans le temple, mais il nous dit, et c'est là l'élément nouveau, que cette source n'est pas enfermée dans le temple. Cette source se déverse hors du sanctuaire. En quelque sorte, il n'est point besoin de faire des efforts pour aller au temple et boire à cette source. Jésus dira à la Samaritaine, je vous le dis, il arrivera un temps, et c'est déjà maintenant, ce n'est pas à Jérusalem que vous allez, que vous irez pour adorer. Mais Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il y a déjà en germe cette vérité-là. La source est dedans, dans le temple, mais elle va à l'extérieur. Elle vient d'elle-même jusqu'à nous. Je relis. De l'eau sortait sous le seuil de la maison vers l'Orient et descendait du bas-côté de la maison. Ensuite, elle va se diriger vers des lieux arides. Nous verrons cela tout à l'heure. Mais pour le moment, essayons de suivre la progression de cette eau qui sort du temple. Ézéchiel, accompagné de l'ange, qui dispose d'un cordeau, va participer à l'évaluation du niveau et de l'étendue de l'eau. Parce que l'ange va prendre des mesures. Il nous est dit, il mesura 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. 1000 coudées de plus, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Encore 1000 coudées, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Et encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Le bilan de cette expérience faite par Ézéchiel sous la conduite de l'ange, le bilan est bouleversant. C'est que le simple cours d'eau qui sortait du dessous du temple, ce simple cours d'eau grossit considérablement et rapidement. Et apparemment, sans concours d'agents extérieurs, c'est-à-dire pas de fortes averses, pas d'affluents qui pourraient renforcer le débit de cette eau. Il ne nous est pas parlé de tout cela, mais d'elle-même, cette eau grossit. Mystérieusement, à mesure où elle s'éloignait de sa source, son débit s'accroissait. Plus elle se répandait, plus elle augmentait en volume. Plus elle distribuait, plus elle s'enrichissait. Plus elle se fournissait, plus elle gagnait en puissance. Frères et sœurs, n'aurions-nous pas là, à travers ce torrent qui s'écoule avec grandeur et majesté, n'aurions-nous pas là un effet de la libéralité de Dieu, de l'inépuisable richesse de sa grâce? Il donne largement, Dieu, à profusion. L'Évangile nous révélera que dans cette libéralité, Dieu ira jusqu'à donner son propre Fils. Il se donne lui-même. Et l'apôtre Paul dira, si Dieu n'a pas hésité à donner son propre Fils, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et pourtant, malgré cette largesse, l'amour de Dieu ne se rétrécit pas au long des siècles. Il est infini dans sa grandeur et dans sa force. Ajoutons aussi qu'il y a là un enseignement pour nous. C'est-à-dire que les dons que Dieu nous confie ne s'entretiennent et ne se développent que lorsque nous les mettons en pratique, lorsque nous les mettons au service des autres. Plus nous les mettons en pratique, plus ces dons prendront de la valeur. Après ce premier constat de cette croissance miraculeuse de l'eau, voyons l'orientation du torrent. Curieusement, en dépit d'une telle vigueur, le torrent ne manifeste aucune furie. Aucune violence n'accompagne un tel dynamisme. Le puissant torrent s'étale sans provoquer d'inondations catastrophiques. De même, malgré sa progression extraordinairement rapide, l'eau ne se disperse pas. Elle est plutôt comparable à une irrigation maîtrisée. Son orientation semble sélective, se déroulant suivant un dessin bien établi. En effet, à contempler ce spectacle, tout donne l'impression que le torrent se dirige prioritairement et résolument vers des secteurs défavorisés, c'est-à-dire des régions arides et la mer morte. Ce sont les deux points, les deux cibles de cette eau qui sort du sanctuaire et qui descend, qui découle vers ces endroits. En d'autres termes, l'eau issue du sanctuaire semble destinée à desservir les lieux en détresse. Autrement dit, des zones défavorisées, où il y a vraiment des carences énormes qui génèrent l'infertilité et la mort. Il ne s'agit pas d'une impression. Il ne s'agit pas d'un hasard. Puisque le prophète déclare, cette eau sortira vers les districts, vers le district oriental, descendra dans la plaine aride et entrera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer seront assainies, c'est-à-dire guéries, purifiées. C'est un programme de la part de Dieu qui oriente l'eau vers une direction précise, là où il y a de la détresse et la mort. Mesurons donc ce qu'il y a d'inouï dans cette affirmation. Car d'elle-même, l'eau vive s'approche de la terre desséchée. Imaginez cela, l'eau s'approche d'elle-même de l'eau desséchée et s'offre à elle. Oh, nous pouvons avoir soif souvent et nous faisons des efforts pour trouver quelque part où nous rafraîchir. Et là, il nous dit que l'eau vient vers nous. Il vient vers celui qui a soif, vers celui qui se dessèche. Oui, c'est sérieux et c'est grave. Il nous dit que le sacré, donc ce qui sort du temple, le sacré se mobilise vers l'impur. De même, comme nous le verrons plus loin, l'Esprit Saint vient sur toute chair. Et on sait que dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, il y avait une opposition entre chair et esprit. Ça ne colle pas ensemble. Mais là, curieusement, c'est l'Esprit Saint qui va venir sur toute chair. Et tout cela de par la volonté de Dieu. C'est que Dieu désire assainir, purifier, guérir tout ce qui en nous est affecté par une maladie, une infirmité. Au lieu de nous rejeter, il restaure, rétablit ce qui est défectueux, dégradé ou inefficace. Il ne rejette pas cela. Comme dirait l'apôtre Pierre au sujet de Jésus de Nazareth, lorsqu'il a été invité chez le centurion et sa famille, comme le dirait l'apôtre Pierre, il passe en faisant du bien. Cette eau passe en faisant du bien. Oui, dans son projet de restauration, le Seigneur se déplace, il se met en route, il vient visiter à la fois le pays et ses habitants. Le psaume 65 évoque l'allégresse occasionnée par un tel déplacement. Le psaume nous dit, « Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu lui donnes l'abondance. La rivière de Dieu regorge d'eau. » Donc Dieu ne vient pas nous visiter les mains vides. Il ne vient pas non plus pour nous repousser, nous rejeter, nous condamner. Il vient pour faire du bien. Cette remarquable mission, venir en aide aux plus fragiles, cette remarquable mission attribuée à l'eau qui jaillit du temple, suscite donc un grand intérêt pour nous. Et cette mission requiert de notre part attention et reconnaissance. Dans la lettre aux Romains, Paul nous dit, quand nous étions encore sans force, Dieu lui-même est venu en Christ nous secourir. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça ne vient pas de nous, c'est Dieu lui-même dans sa bonté qui se penche, qui connaît notre situation. Et le même apôtre nous dit, toujours dans la lettre aux Romains, « L'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. » Frères et sœurs, vraiment Dieu connaît la misère humaine. Il sait de quoi nous sommes formés. Il nous a aimés le premier et nous a donné la preuve de son amour en nous guérissant d'une maladie incurable et mortelle, le péché. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une orientation ciblée, là où il y a la détresse, la mort. Troisième remarque, cette eau qui, puissante, est bien dirigée, bien canalisée, cette eau a des pouvoirs miraculeux. Celui qui servait de guide à Ézéchiel poursuit ses révélations au sujet des vertus miraculeuses de l'eau en disant « Partout où le torrent arrivera, tous les êtres vivants qui y fourmillent vivront. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas. Et les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. » Il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous faire une petite confidence. Lorsque je suis arrivé en France, en 1959, à l'automne, et j'avais du mal à supporter le premier hiver. Vraiment, je dépérissais. Et en lisant ce passage, que l'eau arrive et tout vivra, partout où il arrivera, il y aura de la vie partout où ce torrent arrivera. J'ai dit, Seigneur, naïvement, ah ben Seigneur, viens. Et ce que j'ai fait, j'ai laissé ma Bible ouverte à ce passage. Mais vraiment, j'étais faible, déprimé physiquement et même moralement. Alors j'allais au cours, aux études, je revenais le soir, la Bible était ouverte, et je disais, alors tu viens, c'est tout. Tu viens? Je ne sais pas combien de temps ça a mis, mais j'ai retrouvé de la vigueur. La parole de Dieu est vérité. Alors, retenons donc cette déclaration qui vient du Seigneur lui-même. Donc, il est question de purification, de guérison, mais mieux encore, il est question de restauration, de régénération, de vie. Ces eaux raniment, elles apportent la vie. Et cela, selon la volonté de Dieu de renouvellement, de renouveler profondément la création et les enfants de Dieu qui espèrent. Dieu accomplit ce grand projet en mettant fin au règne de la mort établi depuis Adam, nous dit l'apôtre Paul, en mettant fin au règne de la mort et en instaurant à sa place le règne de la vie. Par conséquent, l'eau qui vient du temple est comme une image du règne de Dieu, du Dieu vivant, qui fait irruption dans notre monde d'impureté, de désolation et de mort. Oui, le règne de Dieu envahit en conquérant. Dans les évangiles, Jésus proclame que les œuvres prodigieuses qu'il accomplissait témoignaient justement que le royaume de Dieu était parvenu jusqu'à nous. Il y a une traduction qui dit « Le règne de Dieu vous a atteint ». Son but, c'était nous. Le règne de Dieu nous atteint. L'eau de la vie éternelle en Jésus-Christ est venue imposer sa loi dans tous les domaines où régnaient le péché, la stérilité et la mort. Et Paul pouvait écrire « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » De même, Jean, à sa façon, dans sa première lettre, rend témoignage à cette démonstration de la vie. Il écrit « La vie a été manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons que la vie éternelle qui était auprès du Père s'est manifestée à nous. » Donc on voit bien le point de départ, hein, la vie éternelle qui était auprès du Père, le Verbe qui était auprès du Père, la source, eh bien, s'est manifestée à nous. Les conséquences de cette profusion de grâce sont incalculables. Désormais, le cycle de la vie, sur Terre peut s'accomplir sans interruption. C'est-à-dire, il n'y a plus d'obstacle à ce déroulement du cycle de la vie. Tout obstacle est comme emporté, charrié par l'eau puissante de la vie. Toutes les phases prévues pour le développement de la vie sont accomplies depuis l'éclosion de la vie jusqu'à son épanouissement total, c'est-à-dire la fructification. Quand cette vie nouvelle commence, elle va jusqu'au bout. Le texte dit « Au bord du torrent, sur les deux rives, pousseront toute espèce d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. » Ça, c'est la conséquence et la cause. C'est parce que l'eau du sanctuaire continue d'agir que nous aussi, nous continuons, nous pouvons poursuivre notre route jusqu'au bout. Et dans la lettre au Romains, justement, et quand l'apôtre Paul parle du cycle pour le chrétien, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Hein? Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, quand Dieu entame une chose, il y a une succession d'étapes glorieuses, victorieuses, qui sont accomplies. L'eau jaillissant du temple accomplit donc un parcours parfait. Le projet de Dieu se révèle un projet durable. Chaque mois, les arbres donnent leurs fruits. Le projet de Dieu n'échoue pas en cours de route. Il va jusqu'à son terme. Car l'eau qui sort du sanctuaire entretient la vie et assure la prospérité en permanence. Cet épanouissement nous rappelle la volonté du Créateur au début de la création. Souvenez-vous, Dieu, en créant les plantes et les êtres vivants, Dieu leur commande d'être féconds et de proliférer. Quand Dieu commence une chose, il veut que cela se développe jusqu'au terme, jusqu'au rendement de la production de fruits. Dieu veut toujours que ses œuvres réussissent et prospèrent. Et le psaume 104 nous dit, c'est ainsi que Dieu se réjouit de ses œuvres. Au début de la création, il s'est réjoui, il a trouvé que tout était bon. Et maintenant, dans la nouvelle création, Dieu veut se réjouir en nous, en l'œuvre qu'il accomplit avec l'eau de la vie éternelle. En conclusion, frères et sœurs, je voudrais insister sur deux éléments principaux qui sont comme les clés de cette vision. Deux éléments. Le temple et l'eau, la source d'eau. Ces deux éléments sont la clé de la vision parce que l'un et l'autre sont les deux façons pour Dieu d'être présent au monde. Le temple et l'eau. Le temple, cela nous dit la demeure de Dieu parmi nous, parmi les hommes. Dieu a voulu habiter parmi les hommes et le temple en est la démonstration. Mais Dieu va plus loin, pas seulement habiter parmi les hommes, mais habiter dans l'homme, habiter en nous. Et c'est l'eau, l'Esprit Saint, qu'il a mis en nous. Voilà donc les deux éléments clés de cette vision, et n'essayons pas de les dissocier, parce que la source est dans le temple, on ne peut pas faire autrement. Oui, le temple de Dieu aujourd'hui, c'est le Christ. Lui-même, il a dit que son corps ressuscité, est le temple saint. Et cette eau, c'est l'Esprit, l'Esprit Saint. Ésaïe disait, « Je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance. » Donc, Ésaïe interprète l'eau comme étant l'Esprit Saint que Dieu fait descendre sur nous, sur le sol altéré. Et Jésus lui-même considérait l'eau comme l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui mettraient en lui leur foi. Jean 7, 38, quand il dit « Venez à moi ». Des sources jailliront de son sein. Alors, il y a une certaine équivoque dans la traduction de ce verset, comme le dit l'Écriture, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Il y a certaines traductions qui l'a supposé, en raison de ce que Jésus avait dit à la Samaritaine, qu'il a supposé que des sources d'eau vive jailliront de son sein. Ils font penser que c'est le croyant, que les sources d'eau vive jailliront des seins du croyant. Bon. Mais plus précisément, c'est du sein de Jésus que jaillit la source d'eau vive. Il faudrait donc traduire « Venez à moi » et tout celui qui croit, point. Et ensuite, des sources d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, d'une part, il a parlé aux croyants de venir, mais en même temps, il jette un regard sur Jésus, et des sources d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Et effectivement, c'est de Jésus glorifié. Il fait trop chaud. C'est de Jésus glorifié que vient l'Esprit. Jésus, le nouveau temple, il reçoit l'Esprit du Père et nous l'envoie. Si bien que, dans l'Apocalypse, il est dit que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple. Car le temple, c'est Dieu lui-même et son Fils et l'agneau. Mais en même temps, l'Apocalypse dit, des fleuves d'eau vive jaillissent du trône de Dieu et de l'agneau. Donc voilà la clé de cette vision. La présence de Dieu au monde de deux manières, le temple et l'esprit, le temple et l'eau. Certainement, ce qui nous frappe le plus, c'est l'eau, avec toutes ses manifestations. C'est vrai que l'esprit, quand l'esprit agit, et cela, j'allais dire, réjouit et transporte. Mais n'oublions pas que l'esprit est là à cause de Jésus, grâce à Jésus. Et ne tombons pas dans le travers des Corinthiens qui se réjouissaient de l'esprit et qui ne tenaient pas tellement compte du Christ, hein, jusqu'à provoquer des divisions. Hein. Et même au moment de la Sainte Cène, ce n'était pas la Sainte Cène, c'était un repas de copains. Hein. Le corps uni était oublié, chacun pour soi. Hein. Donc gardons bien ces deux éléments, le temple, le nouveau temple, Jésus, et l'esprit, l'eau qui en sort. En attendant la plénitude de la gloire de Dieu, réjouissons-nous de ces deux formes de présence. Comme au commencement de la création, la parole de Dieu et l'esprit sont à l'œuvre. C'est pour ça que tout à l'heure, dans ma prière d'humiliation, de demande de pardon, vraiment, je me sens vraiment misérable de mépriser souvent cette présence. Jésus dit, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous, vous a atteint. Et nous ne voyons pas, comme les pharisiens, nous ne voyons pas que le royaume de Dieu est là. Ou encore, quand l'apôtre Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc, en venant par le Fils et par l'Esprit, c'est la plénitude qu'il nous apporte. Mais nous ne voyons pas cela. Et l'apôtre continue, cependant, Dieu nous a donné son Esprit afin que nous discernions précisément les choses qu'il nous accordait par grâce. Donc prions le Seigneur que nous discernions toutes ces choses qui sont là présentes. Il est venu jusqu'à nous. Il nous a atteints. Une dernière parole dans Éphésiens, Paul priait que les yeux du cœur des Éphésiens soient illuminés pour saisir toutes ces réalités. Frères et sœurs, regardons bien cette vision et demandons au Seigneur que nous puissions la saisir dans sa plénitude. C'est vrai, comme dit la fin d'Ézéchiel, le Seigneur est là. C'est la fin du livre d'Ézéchiel. La ville sera appelée, le Seigneur est là. La ville, la nouvelle ville, c'est l'Église. La nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. Le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Amen.